Mon histoire.
Tu crois ?
Oui.
Vas-y, je t'écoute.
Les chercheurs de l'ARC analysent, scrutent, détricotent, critiquent notre société. Leurs écrits trouvent un écho chez vous, chez nous, dans nos vies. Alors dans ce podcast, on a décidé d'ancrer leurs analyses dans le réel, de les illustrer, de les nourrir, de les enrichir en invitant celles et ceux qui sur le terrain bougent, subissent, se mobilisent, expérimentent et pensent.
Du taf au fumoir, un podcast qui vous parle
sans fausse modestie,
sans tabou,
ou presque
sans a priori, si c'est possible,
de problématiques qui traversent notre société,
avec des gens du terrain,
On va réfléchir ensemble,
et puis
si on doute,
c'est tant mieux.
Du taf au fumoir.
Le second numéro de la revue de l'ARC, Permanence critique, est intitulé « Éducation populaire et mouvements sociaux du travail ». Il aborde les enjeux qui se posent à l'éducation et à la formation des travailleurs en lien avec la manière de penser leur émancipation. Les différentes contributions de ce numéro défendent la nécessité de réinventer un modèle au-delà de celui ayant intégré les mouvements sociaux du travail dans le projet de la société dominante. Pour le dire plus simplement, désormais les combats syndicaux composent avec les données du paradigme capitaliste au lieu de chercher à changer de paradigme. Comment orienter les luttes aujourd'hui ? Quel est le projet d'émancipation des luttes syndicales ? Quelles sont les pistes de réorientation de ces luttes ? De quels outils d'éducation populaire disposons-nous pour ce faire ? Donc pour aborder ces questions, Cécile Piret, chercheuse à l'ARC, coordinatrice de ce numéro de la revue et sociologue.
Bonjour.
Bonjour Cécile. Tu as invité Mario Bucci, chercheur et formateur au MOC, Mouvement Ouvrier Chrétien.
Merci, bonjour.
Et tu as aussi invité Jean Matisse, philosophe, formateur bénévole à l'école syndicale CNE Transcom et par ailleurs précieux contributeur de l'ARC pour lequel tu écris régulièrement des analyses.
Bonjour.
Le pacte social, c'est la sécurité sociale, c'est aussi fondamentalement la reconnaissance des droits syndicaux, mais en même temps, c'est aussi une réforme qui absorbe le potentiel radical des organisations ouvrières dans l'hégémonie de la classe dominante.
Vous pourrez retrouver l'étude de laquelle part cette émission dans la nouvelle revue de l'ARC, Permanence critique. Cette revue, dont le deuxième numéro paraîtra fin septembre, donc tout bientôt, est le nouvel outil de diffusion des analyses et des études de nos chercheurs, enrichi de contributions externes, notamment de Jean, qui est présent aujourd'hui. Elle se développe autour d'un thème central et propose également des comptes rendus, des analyses sur d'autres sujets, des réactions face à l'actualité, etc. Pour vous y abonner, rendez-vous sur notre site arc-culture.be.
Nous allons commencer avec toi, Cécile, et avec le texte principal de la revue que tu as écrit et qui s'intitule « D'une hégémonie à l'autre, les ambivalences de l'éducation populaire des travailleurs entre pacte social et néolibéralisme ». Tu y amènes la problématique que nous abordons aujourd'hui. Est-ce que tu peux la développer ?
Oui, alors tout d'abord, je peux dire pourquoi ça me semblait important de construire un numéro de la revue autour de ce sujet. Il me semble qu'il y a un malaise fort au sein du mouvement syndical et chez les acteurs militants luttant autour des enjeux du travail pour finalement s'opposer et résister au patronat. Et mon idée, c'était que ce malaise est lié non pas tant ou pas uniquement à des capacités de mobilisation qui seraient en diminution. D'ailleurs, au fond, les organisations syndicales sont encore aujourd'hui en Belgique les seules organisations qui sont capables de réunir autant de monde dans la rue, mais que ce malaise est surtout lié à l'orientation et aux perspectives des mouvements sociaux du travail. Et donc, selon moi, cela pose toute la question du projet politique dont sont porteurs ces mouvements, et donc aussi leur manière de penser l'émancipation des travailleurs. Et la thèse qui parcourt la ligne éditoriale du numéro et de ma recherche, c'est que nous avons un référentiel d'émancipation hérité de la période du compromis social, de la période fordiste, qui est de plus en plus en décalage face aux transformations du capitalisme mondialisé. Et d'une certaine manière, c'est une question qui interroge directement la manière de concevoir l'éducation et la formation des travailleurs, et donc par extension l'éducation populaire, puisqu'elles constituent la dimension idéologique, la dimension politique de ces mouvements. Et donc, cela me semble un endroit privilégié pour penser le référentiel d'émancipation, pour se poser des questions de fond, limite des, on pourrait dire des questions existentielles sur les mouvements sociaux du travail. Et même que, finalement, l'histoire de l'éducation et de la formation des travailleurs est un bon lieu d'observation pour comprendre, finalement, les processus sociaux qui ont façonné le mouvement ouvrier en Belgique et qui a mené à son institutionnalisation. Alors, pour cela, l'angle de ma recherche a été d'analyser l'histoire de l'éducation et de la formation des travailleurs, hein, telle qu'elle s'est développée à la fin du 19e et tout au long du 20e siècle, au sein des mouvements ouvriers, socialistes et chrétiens, au prisme des dynamiques de classe et de leur conflictualité. Alors, je rassure tout le monde, je ne vais pas ici faire un cours d'histoire, mais je voudrais évoquer un moment clé qui va marquer fortement le mouvement ouvrier. C'est la mise en place de la société du pacte social après 1945. Je souligne en effet dans mon étude qu'il y a à ce moment-là, en parallèle, entre le développement de l'éducation des travailleurs et la reconnaissance du syndicalisme dans la société belge. Alors, j'explique pourquoi. C'est en effet à ce moment-là que les organisations syndicales vont être intégrées dans un système complexe de concertation et de négociation sociale dans lequel on leur reconnaît un rôle légitime d'interlocuteur social. Donc il faut se rendre compte de l'ampleur de ce système où les syndicats vont être reconnus à la fois au niveau de l'entreprise, au niveau intersectoriel et aussi au niveau national, à travers le Conseil national du travail où sont négociés les accords interprofessionnels. Et donc en quelque sorte, ces organismes servent de terrain de rencontre entre les représentants du travail et les représentants patronaux, où les deux sont amenés à prendre des décisions dans les matières économiques, sociales, etc. Et donc très concrètement, cela signifie qu'il va falloir assez vite former des travailleurs pour devenir des représentants compétents et qualifiés pour assumer ce nouveau rôle d'interlocuteur social, de négociateur. C'est à ce moment-là que les organisations syndicales vont être reconnues, subsidiées par l'État, pour prendre en charge la formation syndicale. Un système de créditant sera mis en place ensuite pour permettre aux travailleurs mandatés de suivre cette formation durant leurs heures de travail sans perte de salaire. Et donc c'est dans un paradigme fordiste que se met en place ces organismes de concertation. Et oui, les revendications, ou ce sont des revendications du type fordiste qui vont être négociées, donc la redistribution des gains de productivité, l'amélioration des droits sociaux liés au travail, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, c'est ce cadre fordiste aussi qui définit le contenu de la formation des travailleurs, ce qu'on va enseigner comme savoir et le type d'expertise, finalement, qu'on va demander à ses représentants. Et donc, il y a un lien entre le développement de l'éducation des travailleurs à cette époque et la manière dont les conflits de classe vont être régulés, encadrés, balisés dans les entreprises. Puisque c'est dans ces organismes que les travailleurs vont apprendre non seulement à défendre leurs intérêts, mais aussi à trouver en fait, des terrains d'entente avec le patronat. Et donc ils vont aussi intérioriser des dispositions à la concertation, plus ou moins conflictuelle selon les situations. Et ceci constitue, à mon avis, un moment très important dans ce qui va constituer alors l'horizon politique du travail, c'est-à-dire que va s'imposer une manière dominante de penser l'émancipation des travailleurs comme étant subordonnée au cadre capitaliste, puisque c'est dans ce cadre que des avancées sociales vont être faites. Et donc, fondamentalement, l'idée même qu'une extension des droits sociaux et culturels est possible dans une économie capitaliste va s'imposer.
Mais il n'y a quand même pas rien eu. On n'est pas que dans l'ordre du petit compromis qui convient au cadre. Il y a quand même eu des grandes avancées grâce au syndicalisme.
Oui, tout à fait. Donc, il faut regarder, en fait, je pense, la dynamique sociétale dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est effectivement une période assez inédite pour le mouvement ouvrier. avec des avancées tout à fait nouvelles. Le pacte social, c'est la sécurité sociale, avec le pilier de des pensions, de l'assurance maladie, l'assurance chômage, les vacances annuelles. C'est aussi fondamentalement la reconnaissance des droits syndicaux et de la présence syndicale sur les lieux de travail. Mais en même temps, c'est aussi une réforme qui absorbe le potentiel radical des organisations ouvrières dans l'hégémonie de la classe dominante. Ici, par hégémonie, ce que j'entends, enfin, j'utilise le terme d'hégémonie au sens de Gramsci, c'est-à-dire une manière d'exercer la domination et la direction de la société par la classe au pouvoir, qui ne se fait pas seulement par la répression et la coercition, mais aussi par le consentement. Et donc c'est une période où on voit une coordination concrète des intérêts entre les travailleurs et le patronat. Puisque les intérêts des travailleurs vont être liés à ceux de leur entreprise, puisqu'ils ont intérêt à des augmentations, une augmentation de la productivité, etc., etc. Donc oui, ce que j'essaye de mettre en avant dans ma recherche, c'est, et c'est peut-être un peu à contre-courant de ce qui est habituellement dit, c'est que cette période n'est pas que une grande victoire du mouvement ouvrier, c'est aussi un moment où se constitue une ambivalence très forte quant à l'horizon politique finalement du mouvement ouvrier qui, à partir de ce moment-là, va toujours être pensé dans le cadre de l'économie capitaliste. Et alors, d'une certaine manière, le décret de 1976, hein, donc le décret fondateur de l'éducation permanente, s'inscrit dans un processus comparable. Pourquoi ? D'abord parce que les organisations d'éducation populaire développées à l'origine par les mouvements ouvriers vont être intégrées dans les politiques publiques, en l'occurrence dans les politiques culturelles, tout comme par exemple les caisses de chômage vont être intégrées dans le système de la sécurité sociale. Et aussi ensuite parce que cela va avoir pour effet sur l'éducation populaire la même ambivalence, c'est-à-dire qu'on va avoir des moyens incroyables qui vont être donnés aux associations, hein, avec la création de nombreux emplois, avec des enveloppes de subsides prévues, etc. Et en même temps, la dimension la plus revendicative de l'éducation populaire va disparaître assez vite finalement après ce décret.
À savoir remettre en cause le système dans lequel on est, quoi.
Voilà, et par exemple, c'est intéressant de savoir que le décret de 76, il a été pensé avec le MOC, donc le mouvement ouvrier chrétien a participé à la rédaction de ce décret, et notamment le sociologue Georges Liénard a travaillé à ce décret, et lui, très clairement, dans ce décret, parle de l'éducation populaire comme un outil pour faire des actions culturelles de masse basées sur les intérêts des travailleurs. Il y a, disons, donc là, à cet endroit-là, un projet de contre-société qui est très présent, Et qui disparaîtra finalement dans la suite.
J'avais une petite question.
Oui. Jean.
Tu dis que les institutions du mouvement ouvrier institutionnalisé ont obtenu des acquis ou des conquêtes sociales fortes tout en restant dans le cadre du capitalisme. Est-ce que tu pourrais donner, selon toi, quelles sont un peu les coordonnées de ce cadre qui sont restés le cadre général au sein duquel on négocie, mais auquel on ne touche pas. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, ben, si ce cadre, c'est le capitalisme fait des pauvres, eh ben, avec la sécurité sociale, les mesures d'allocation pour le chômage, on lutte contre la pauvreté. Mais ça, pour toi, ça n'est pas remettre en question le cadre. C'est quoi le cadre du capitalisme qui n'est pas remis en question suffisamment, selon toi, par le mouvement ouvrier ?
Mais je dirais que c'est un peu... Si on prend ce qui se passe dans les entreprises à ce moment-là, en fait, ce qui va être mis en place dans les entreprises à cette période, c'est la démocratie économique. C'est dire que finalement, ou en tout cas, il y a un idéal de démocratie économique qui est mis en avant, où les décisions vont être prises de manière paritaire, où les organisations syndicales vont pouvoir tenter de redistribuer les gains de productivité, de défendre le bien-être et la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail. Donc il y a des avancées qui sont évidentes. Mais typiquement, cette notion de démocratie économique telle qu'elle est amenée à ce moment-là abandonne finalement la question de la propriété privée, par exemple, ou abandonne la question même de l'organisation de la production dans la société. les idées plus radicales de planification, par exemple, sont abandonnées et l'idée d'un marché, l'idée d'une croissance indéfinie de la production est quelque chose qui va être complètement intégré par les organisations syndicales.
Mario voulait aussi intervenir ?
Oui, pour poursuivre cet aspect, si il faut reconnaître que, comparé au 19e siècle, les avancées sociodémocrates de l'époque fordiste ont amené des améliorations de la stabilité, etc. Ce que Cécile appelle ces phénomènes d'institutionnalisation ont constitué des cadres, cadres de concertation, cadres d'éducation, qui, au vu de la phase suivante du capitalisme, mondialisé, financiarisé, ont été vidés. Les centres décisionnels qui, peut-être dans l'après-guerre, se trouvaient dans l'entreprise ou étaient proches de l'entreprise, mais non, se sont déplacés à des milliers de kilomètres. Les logiques de production de profit avant étaient basées essentiellement sur la production, la maîtrise des coûts de production et la production de masse. À l'état actuel, la dimension financière de l'économie commence à être prépondérante. Donc, tous les dispositifs institutionnels qui s'est créé à une époque, me semble-t-il, est vidé de ses capacités de décision et d'action. Mais il reste. Les acteurs y croient toujours. Mais voilà, mais après, en termes d'efficacité, de capacité de transformation, évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que Cécile vient de dire. Déjà, à l'époque fordiste, on a renoncé à certains types de transformations. Mais aujourd'hui, même ces transformations-là sont complètement inconcevables.
Oui, Cécile.
Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Mario, et je trouve même qu'on peut aller plus loin. Donc, effectivement, ces organismes de concertation ont été vidés de leur potentiel de contre-pouvoir. Mais finalement, on pourrait même dire qu'ils ont été réutilisés par le monde patronal pour passer à l'offensive de manière plus pacifiée. Et c'était le dernier point que je voulais faire de mon intervention. C'est ce que le sociologue Michael Burahoy a identifié comme l'arrivée d'un despotisme hégémonique dans les usines, en gros à partir des années 70. Et qu'est-ce qu'il veut dire par cette notion ? C'est finalement que c'est l'idée que les outils de la concertation sociale qui organisaient le consentement des travailleurs au projet de l'entreprise capitaliste, mais qui permettaient aussi de gagner des concessions, et ces outils sont cette fois réutilisés par l'employeur, finalement, pour imposer son agenda économique. Et donc ce sont des lieux où finalement, les travailleurs arrachaient des concessions dans ces espaces-là, il en fait maintenant au patronat. Et je crois que c'est très clair dans tous les cas par exemple, de restructuration et de licenciement collectif, où en fait la concertation sociale s'est transformée en une négociation de compensation sociale qui a en fait quand même au final comme effet de rendre très prévisibles les plans de restructuration, de les pacifier et de faire plus ou moins accepter, en tout cas aux organisations syndicales et aux travailleurs, ces décisions économiques-là.
On parle un peu de l'espèce de chantage qu'on entend souvent, c'est vous acceptez qu'on bloque les salaires parce que sinon on va devoir aller à l'étranger et vous n'aurez plus de boulot du tout, quoi. C'est ça que tu...
Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est là qu'on voit aussi que... En fait, le paradigme précédent a eu pour conséquence que les organisations syndicales ont abandonné finalement tout projet de contre-mouvement à la société capitaliste. Et donc, elles se retrouvent de fait prises au piège à négocier des régressions sociales imposées par l'employeur. Et voilà, et ce qui me semblait intéressant à travers ce numéro, c'est de finalement faire le bilan critique de ça pour penser le futur des luttes, pour repenser le futur des luttes du travail et proposer cette réflexion et voilà pour penser des nouvelles manières de s'opposer au monde patronal.
C'est pour rebondir, enfin la question que tu posais plutôt Anne, c'était oui, mais quand même il y a eu tous ces acquis syndicaux. Moi j'ai l'impression que c'est au nom de ces acquis syndicaux, disons sociaux-démocrates, qu'il faut aujourd'hui accepter la nécessité de dépasser le modèle dans lequel on est, c'est-à-dire, comme Cécile vient de l'expliquer, finalement, on pourrait dire, en schématisant, en 45, on a laissé de côté les exigences les plus radicales de transformation de l'économie en échange d'un cadre de concertation. Mmh. Ce cadre de concertation, pour différentes raisons relativement structurelles à l'échelle mondiale, les conditions de cette concertation à l'échelle mondiale ne sont plus données. Elles sont vouées en tout cas à disparaître fondamentalement, délocalisation, etc. Donc on se retrouve à avoir, disons, fait un deal, mais qui ne peut plus être respecté fondamentalement. Et donc, c'est pour pouvoir même minimalement avoir un pouvoir de négociation sur nos conditions de travail, etc., qu'il faut pouvoir retrouver cette radicalité. Mmh. Sinon, on reste dans un cadre on perd sur tous les plans si on ne retrouve pas le sens de cette radicalité. Et par rapport à ça, on peut, d'une certaine manière, les institutions, disons, du mouvement ouvrier semblent tenter parfois, pour continuer à exister, de penser qu'elles doivent demander moins ou exiger moins. C'est-à-dire qu'il faut rester un maximum dans ce cadre et pas ouvrir trop notre gueule pour pouvoir continuer à grignoter les petites choses, à ralentir un peu la catastrophe.
Limiter les dégâts.
Voilà. Alors qu'à mon avis, pour continuer à exister et qu'elles puissent jouer leur rôle effectivement de régulation collective, des conditions de travail, etc., elles doivent viser plus haut et donc remettre même en question le cadre dans lequel elles fonctionnent.
Mario, toi qui es actif dans la formation syndicale, enfin, ça doit être complètement déprimant, évidemment, un constat pareil, parce que est-ce que tu te retrouves face à des gens qui y croient encore ? Est-ce que la formation syndicale est devenue un lieu de réflexion sur vers quoi on veut aller ? Ou est-ce que vous continuez, comme avant, dans le paradigme actuel, à former des gens, à mener, je vais être très méchante, mais... des grandes messes syndicales de la gare du Nord à la gare du Midi, quoi.
Ben donc, disons qu'il y a des tensions. Je pense qu'il ne faut pas voir tout en noir ou blanc. Clairement, si on regarde les militants, si on regarde les travailleurs et les travailleuses, il y en a qui ne sont pas résignés, il y en a qui prennent des initiatives, il y en a qui s'organisent. D'autre part, mon expérience est une expérience qui reflète assez bien ce que Cécile décrit dans son étude en termes de processus d'institutionnalisation d'initiatives d'éducation populaire adressée aux travailleurs. Donc, je peux vous donner l'exemple que je connais mieux parce que j'y travaille et donc j'ai eu la possibilité d'approfondir même d'un point de vue historique. Donc je travaille pour comme tu as dit en introduction, pour le mouvement ouvrier chrétien et je collabore avec l'ISCO, qui est l'Institut supérieur de culture ouvrière, qui est une création du MOC, qui date de 1961. Donc, je pense que c'est, à ma connaissance, c'est un projet assez unique dans le monde, parce que c'est un programme de formation longue pour des personnes qui sont issues des milieux populaires. C'est une formation qui a été structurée en 1961 à partir d'expériences de cercles d'éducation ouvrière et autres, et qui donc a une des raisons pour lesquelles il a pu continuer à exister pendant 60 ans est le fait qu'il a été structuré, il a été formalisé, il a été soutenu financièrement par le mouvement ouvrier chrétien, même si maintenant il bénéficie des financements de l'éducation permanente, donc des financements institutionnels. Et c'est un dispositif qui, à la base, poursuit deux objectifs. Un objectif est ce que Cécile a déjà évoqué, c'est-à-dire la formation de militants du MOC. Cette formation est centrée autour de la notion d'action collective. Donc, c'est une formation dont la finalité intrinsèque est de donner aux personnes issues des milieux populaires militantes du MOC, de donner les capacités, les connaissances et les capacités qui sont nécessaires pour s'engager dans des actions collectives. Alors, ce que Cécile a dit est très juste. Hein, il faut se poser la question de quelles actions collectives, parce que le cadre reste toujours le cadre du compromis keynésien. Donc la défense du capitalisme est pour la création des richesses comme mécanisme de production des richesses et la redistribution des richesses qui sont produites. C'est une formation que, pour les étudiants qui le souhaitent, donne accès à un diplôme de la promotion sociale, un diplôme de l'enseignement supérieur même, et qui bénéficie, c'est mentionné encore dans l'article de Cécile, du congé éducation payé pour les personnes, les travailleuses et les travailleurs qui assistent. Donc c'est vraiment un dispositif de formation qui est pleinement intégré dans le cadre que Cécile y reflète, même si c'est un produit de ce cadre. Alors c'est un exemple. Je disais, il est traversé par des contradictions, des tensions. Parce que quand on donne cours à ces gens qui sont en grande partie des délégués syndicaux, on se rend compte que les tensions qu'ils vivent sur leur lieu de travail, en fait, nécessiteraient d'autres types de réponses. Et donc, par exemple, mon expérience est que quand on analyse avec eux l'organisation du travail dans leur propre entreprise, ça donne une compréhension du contexte dans lequel ils se trouvent à agir et leur fonction est aussi celle de les faire évoluer, de changer les rapports de force ce sont des connaissances qu'ils n'acquièrent pas à travers leur travail ou pas tout à fait. Mais de l'autre côté, ça crée aussi une partie de frustration parce que après ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Le type d'action qui est promue ou qui est tolérée par les organisations est plus limitée de ce que les travailleuses et les travailleurs auraient peut-être envie ou comprennent qui serait nécessaire, souhaitable, possible. Donc il y a cette tension qui est très présente dans l'expérience même quotidienne avec les différents groupes qui sont en formation. Je pense que c'est d'un côté c'est un succès énorme parce que un programme aussi structuré et qui existe depuis 60 ans existe encore aujourd'hui. Ailleurs, dans d'autres pays, la tension entre la formation plutôt professionnelle des travailleurs et une formation politique désormais a basculé complètement du côté de la formation professionnelle. Mm-hmm. D'ailleurs, même ici en Belgique, pour le peu que j'en sais, du côté des Flandres, cette tendance est beaucoup plus accentuée que du côté francophone. Donc, Bon, personnellement, je suis fier de travailler pour ce, pour ce projet. Mais voilà, c'est aussi après avoir aussi une vision un peu plus détachée qui dépasse la gestion de formations, des activités et avoir un regard au contexte que Cécile a si bien décrit. Clairement, ça crée des tensions, ça crée c'est pas toujours facile, disons.
Non, j'imagine.
Du taf au fumoir.
Jean, toi, tu as travaillé sur les pratiques qui permettent de éventuellement dépasser, qui pourraient permettre de dépasser l'ambivalence et les limites du paradigme dans lequel donc les luttes syndicales semblent un peu engoncées. Et dans la revue Apparaître, tu évoques l'enquête, enfin tu fais plus qu'évoquer d'ailleurs, l'enquête ouvrière, et dont tu sembles être un grand partisan. Est-ce que tu peux nous dire d'abord en quoi ça consiste une enquête ouvrière, et ensuite en quoi on aurait tout intérêt dans la lutte syndicale à envisager cet outil ?
Bon, alors avant de donner une définition, je dirais que avant de la promouvoir moi en mon nom, c'est d'abord quelque chose qu'on constate. C'est le renouveau de cette forme qu'on appelle enquête ouvrière, mais qui, en fonction des contextes, peut s'appeler aussi enquête populaire, justement pour décentrer ce dispositif particulier que je vais expliquer de son référent strictement ouvrier, mot qui lui-même aujourd'hui semble avoir perdu un peu de sa pertinence, qui évidemment n'est pas le cas dans le sens propre d'ouvrier-travailleur, mais voilà, voilà. On imagine ouvrier-usine, si on ne voit pas des usines autour
oui,
de nous,
il n'y a plus besoin.
Donc voilà, en Amérique latine, par exemple, la thématique de l'enquête populaire s'est beaucoup développée dans l'idée qu'on voilà, on peut aussi toucher des gens qui sont exclus du milieu du travail, etc. Donc c'est d'abord quelque chose qu'on constate avant que je le promeuve, et la question que je traite dans mon analyse, c'est finalement quelles sont les formes d'enquête que l'on pourrait souhaiter voir se développer. C'était ça, finalement. Et donc, mon analyse est une prise de position, une proposition aussi. Voilà, on pourrait m'opposer tout un tas d'arguments, mais voilà, c'est une proposition au débat. Alors, première chose, quand on entend enquête, on va sans doute penser à des gens qui font des coups de fil pour remplir des questionnaires ou des choses comme ça. Alors, ça n'est pas ça. Mmh. Alors, disons, un processus d'enquête ouvrière, je vais utiliser le mot générique d'enquête ouvrière ici, peut inclure à un moment quelque chose comme un questionnaire qui serait distribué, et voilà, on voudrait collecter des informations. Mais l'enquête ouvrière, telle que je l'entends ici, c'est un processus qui ne se réduit pas à ce genre de choses, et qui, en général, s'oppose sans doute dans son principe à ce qu'on imagine étant voilà, juste aller distribuer des questionnaires à des milliers de gens pour récolter des données, et puis qui sont traités par voilà, d'autres personnes qui n'ont aucun lien avec les personnes qui ont été interrogées. L'enquête ouvrière, au sens large, on peut l'entendre donc comme une pratique ou un dispositif ou un processus dans lequel des gens essayent de produire un savoir de leur situation dans le but de transformer cette situation. Ça, c'est la définition la plus générale qu'on pourrait donner. L'image qu'on peut avoir, qui est celle historique d'enquête ouvrière dans les années 60 en Italie, ce sont des intellectuels qui sont allés dans les usines. Donc c'est aussi, voilà, là dans ma définition, j'ai dit des gens qui veulent comprendre leur situation pour la transformer. En général, l'enquête met aussi en son centre une rencontre entre des mondes sociaux, des milieux sociaux qui ne coexistent pas toujours. Donc des intellectuels qui viennent en usine, non pas avec l'idée qu'ils vont expliquer aux ouvriers quelle est la réalité de leur travail, ni non plus en supposant que les ouvriers savent tout de la réalité du système capitaliste dans lequel ils jouent un rôle important, mais que c'est dans la rencontre de ces deux groupes qu'un savoir critique peut être produit. Donc on a besoin à la fois de la perspective des ouvriers, mais qu'on a aussi, pourquoi pas, besoin du savoir produit de manière plus académique, du côté de la sociologie, de l'économie, et ainsi de suite.
Je t'interromps parce que Mario semblait avoir très envie d'intervenir.
Non, c'était presque une blague parce qu'en fait, historiquement, ils n'allaient pas dans les usines, mais aux portes des usines. Non, c'est important parce qu'il y a cette expérience à laquelle Jean fait référence impliquait que disons, les intellectuels il se levait, il commençait à s'adapter aux horaires de travail des travailleuses et des travailleurs. Donc, pour les rencontrer, il devait aller à l'entrée. Et donc, il devait se lever à 4 heures du matin pour être dans les portes des usines à 5 heures, 5 heures et demie, 6 heures, ou à la sortie. Parce que déjà à ce moment, c'était difficile de convaincre les travailleurs à faire des heures supplémentaires pour s'amuser à discuter de leur, ou à réfléchir sur leur activité de travail, où ça c'était limité à des minorités. Mm-hmm. Hein? Mais donc il fallait vraiment aller à la rencontre, mais évidemment que c'était interdit de rentrer dans les usines. Ouais. Et donc c'est pour cela que c'est pas pour corriger Jean, mais je pense que c'est important pour comprendre quelle était l'alliance à laquelle Jean fait référence. Oui.
Alors ça marche très bien pour ce que tu dis est très juste pour les enquêtes italiennes, donc le mouvement qu'on appelle opéraïste. Justement par cette manière de voilà des théoriciens ou des intellectuels communistes qui disent bon il faut aller voir dans les usines comment le travail évoluait, comment les conditions de travail ont évolué, et c'est un mouvement qui a été particulièrement fécond sur le plan théorique, sur le plan politique aussi, disons, ça a eu voilà tout le mouvement de l'autonomie italienne après, c'est aussi des effets de long terme sur quelques décennies j'en reste là pour ce point. Mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'en France, où il n'y a pas eu de mouvement comparable, en tout cas en termes de production théorique d'enquête, il y a eu le mouvement des établis en usine. Donc là, ça venait plutôt des courants maoïstes français, des gens qui, donc des intellectuels qui, vu qu'on n'avait pas le droit de rentrer en tant qu'extérieur dans l'usine, se faisaient embaucher, en cachant leur diplôme, etc., se faisaient embaucher en usine dans l'idée de faire de l'agitation politique, comme on pouvait dire à une certaine époque. Mais voilà, est-ce que c'était un processus d'enquête dans le sens où voilà, la question du résultat produit, évidemment la question se pose, sachant que voilà, la définition que je donnerais ici, c'est vraiment ce lien entre produire un savoir qui soit politique, donc ça n'est pas un savoir inerte, purement académique, extérieur, mais c'est aussi donc, produire une politisation des gens qui sont là en produisant du savoir. Donc c'est à la fois un savoir politique et une politisation savante, qui essaye, disons, d'être instruite des conditions structurelles qui déterminent la situation dans laquelle on vit. Essayer de saisir un peu tout ça, afin de pouvoir agir plus directement ou plus efficacement d'un point de vue stratégique sur cette situation. Et aussi dans l'idée que, en fait, produire un savoir sur notre situation de vie, ça nous transforme intérieurement, d'une certaine manière. Ça peut nous déplacer. C'était voilà, une thématique marxiste d'un point de vue philosophique qui est l'idée que voilà, un ouvrier a une double existence. D'un côté, il est un ouvrier qui en fait, sert à produire de la richesse et à reproduire le capital qui l'assujettit. Donc il est pris dans ce cercle vicieux où il nourrit la bête qui le domine. Et en même temps, il a quelque chose en lui en tant qu'ouvrier qui ouvre vers une autre possibilité, une autre forme d'organisation sociale qui implique la négation de l'organisation capitaliste du travail. Donc cette idée d'une division intérieure aux travailleurs, c'est quelque chose que l'enquête peut essayer d'aller activer. L'idée, c'est qu'on a besoin de se cliver, de se déchirer intérieurement pour agir, pour transformer notre situation. Et pour ça, produire du savoir permet d'introduire ce décalage par rapport à soi-même.
Donc ça permet de tirer le constat du décalage. Enfin, tu vas me dire, c'est peut-être la genèse de quelque chose d'autre, mais c'est pas l'enquête du coup qui va te donner des pistes pour un autre paradigme ou pour une remise en cause du paradigme.
Je pense que ça le peut tout à fait. C'est-à-dire par le travail d'enquête, on peut identifier l'existence d'un désir partagé par des groupes sociaux, d'autres choses, et de peut-être pouvoir nommer ou donner des noms à ces autres choses. Voilà, ce qu'on veut, ce serait pouvoir décider nous-mêmes de nos existences. Voilà, ça pourrait se dire comme ça. Après, c'est une formulation très, très, très théorique peut-être, mais quelque chose qui se nomme de cette manière-là et qui se dit, bon, mais quelles conséquences on peut tirer de cette envie-là? Ah, ok, on veut pouvoir choisir nous-mêmes comment on vit et ne plus être assujetti ou aliéné à des logiques qui nous dépassent et qui s'imposent à tout le monde. Ok, ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait transformer pour ça?
C'est une condition nécessaire, en tout cas, de comprendre dans quoi on est pour savoir si on y est bien ou si on veut en changer.
Voilà, ouais.
Et je me permettrai d'ajouter aussi de rendre collectif ce savoir. Mmh. C'est le passage de l'expérience individuelle au savoir collectif est un passage qui est fondamental dans cette logique. Mmh.
Condition nécessaire, mais pas suffisante, je pense.
Non, évidemment.
Non, effectivement, dans mon analyse, je dis qu'à mon avis, l'enquête donc est une forme dont on voit qu'elle regagne de l'intérêt. Aujourd'hui, dans plusieurs pays, en France, il y a une plateforme d'enquête militante qui réalise des enquêtes, en Angleterre aussi, au MOC de Bruxelles aussi, il y a eu tout un numéro d'une revue qui est sortie sur cette question, donc sur cette forme de pratique, qui est vraiment au cœur de la démarche de l'éducation permanente.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça.
Voilà, c'est vraiment au cœur de ça, c'est-à-dire produire, pour les publics, produire mm-hmm. eux-mêmes un savoir de leur propre situation pour s'émanciper. C'est vraiment mm-hmm. la définition même de l'éducation permanente. Et d'ailleurs, je mentionne qu'il y a une longue histoire au sein du mouvement ouvrier chrétien belge de ça. C'est que dans les années 20-30, le mouvement des jocs a mené des enquêtes ouvrières. Voilà. Bon, qui n'étaient pas sans ambivalence. C'est-à-dire que parfois, il s'agissait aussi d'aller vérifier la qualité morale des ouvriers. Parce qu'évidemment, dans le mouvement ouvrier, il y avait aussi chrétien en particulier. Il y avait un peu la crainte de l'aspect un peu immoral de certaines pratiques sociales dans les classes populaires. Bon, c'est une autre question, mais c'était des enquêtes qui, effectivement, étaient souvent impulsées du haut depuis une organisation existante. Et donc, voilà. Et alors, les sujets ou les choses autour desquelles on voit des enquêtes réémerger aujourd'hui, il y en a tout un tas, mais alors ça concerne, par exemple, les mutations des conditions de travail, justement... typiquement le développement du capitalisme de plateforme, les livreurs,
oui, Uberisation,
etc. Aussi d'autres enquêtes sur l'évolution des chaînes de valeur au sein de l'économie, typiquement une accentuation sur l'importance des transports, des infrastructures de transport dans nos pays occidentaux, puisqu'on produit ailleurs, c'est les transports qui gagnent une importance importante chez nous. Et l'idée militante derrière ces enquêtes, c'est de se dire, eh ben justement, les ouvriers des transports concentre une forme de pouvoir très concret sur les flux de marchandises dans le capitalisme contemporain. Et donc, il y a là une question à aller explorer.
Qui est déjà bien exploitée dans le nord de la France quand il y a une grève, par exemple.
Ben, tout à fait. Même le fait de bloquer des ronds-points, etc. Ça évoque l'idée qu'il faut bloquer les flux mm-hmm. dans nos pays puisqu'on ne peut plus bloquer les usines. Bon.
Ouais. Les grèves dans les ports.
Les grèves dans les ports, tout à fait. D'autres sujets aussi, typiquement une pandémie, projet d'enquête, comment est-ce que le Covid a affecté les gens, comment est-ce qu'ils se sont sentis dépossédés de certaines choses, mais comment est-ce qu'il y a eu des tentatives de résistance aussi, ou d'auto-organisation et de solidarité. Tout ça sont des sujets dans lesquels il peut y avoir des processus d'enquête qui se lancent. Qui sont toujours plus ou moins imprévisibles.
Et qui ne sont pas toujours conscients, en tout cas se conscientiser en tant qu'enquête ouvrière.
Enfin, non, tout à fait.
Les blouses blanches mènent un travail depuis même avant le Covid, mais fondamental là-dessus.
Tout à fait. Mais donc voilà, ce qui fait la spécificité de l'enquête ouvrière, c'est cette articulation entre un savoir et une politisation de nos situations de vie. Et c'est ces deux aspects qu'il faut tenir ensemble pour qu'on puisse parler d'enquête en tant que telle. Quoi. Mmh. Voilà. Donc je disais, ce nouage entre la production d'un savoir et une politisation, donc ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste de produire un savoir académique qui soit ne sert à rien, soit pourrait être utilisé par des institutions pour juste mieux connaître leur public cible, mais sans que ces populations soient directement impliquées dans la production de ce savoir. Il faut que les publics ne soient pas seulement des objets de ce savoir, mais en fait participent à la production de ce savoir, ils en soient les sujets aussi. Mais aussi, donc, l'autre aspect, c'est ce que j'appellerais une politisation savante, donc, qui cherche à produire du savoir. Ça suppose qu'il n'y a pas de savoir prédonné non plus, ni du côté des intellectuels, ni des travailleurs ou des publics populaires. Il n'y a pas un savoir prédonné de leur situation de vie ou de la compréhension de comment est-ce qu'on peut le transformer. Donc, dire qu'il y a un savoir à produire, ça suppose que ce savoir n'est pas donné tout fait, préexistant dans la tête, dans la tête des gens. Et j'ai l'impression parfois que dans le milieu associatif, on présuppose que les gens savent. Alors évidemment, c'est très juste, d'une certaine manière. Pour une part, évidemment, on parle des premiers concernés, qui sont les premiers à connaître ce qui leur arrive, les dominations dont ils sont les victimes. Néanmoins, je pense, en tout cas, on peut dire, à la lumière des expériences d'enquête ouvrière du passé, que ce processus doit produire quelque chose d'autre que ce qui est déjà donné. Ce savoir peut s'enrichir, peut se complexifier, peut se connecter à d'autres choses. Peut-être que des ponts politiques peuvent se tisser avec d'autres groupes sociaux, etc. Donc il y a quelque chose qui doit être transformé. On n'est pas juste dans extraire un savoir qui préexiste. Et j'ai l'impression parfois que, disons, dans l'idéologie spontanée de l'éducation permanente, on est beaucoup dans cette idée de... Voilà, on va parler de co-construction, etc. Ouais. Ce qui est évidemment de nouveau très juste. Mais... voilà, ne pas oublier non plus cet aspect de nécessité de transformer ce qui est donné, c'est-à-dire aussi bien les enquêtés que les enquêteurs, entre guillemets.
Mmh. Mmh. Vas-y, Marie.
Oui, et donc je me permets de rentrer dans ce que toi tu écris, Jean, parce qu'il y a, tu mentionnes aussi le pendant inverse de ça. C'est-à-dire que... malgré les discours sur la co-construction, la valorisation des savoirs expérientiels, etc., il me semble que très souvent, évidemment pas dans l'organisation où je travaille, il y a la vision inverse de dire il y a quelqu'un qui sait, qui sait ce qui est bien et qui est mal. Et Cécile le mentionne aussi dans son article, ce qu'il devrait penser ou ce que les milieux populaires, la classe ouvrière devrait penser. Et je pense que en termes de mise à jour des expériences d'enquête, la référence que tu fais à la thèse 15, j'ai regardé, à l'idée de l'intelligence, de l'égalité des intelligences, ça me semble vraiment quelque chose. Cette idée est venue beaucoup plus tard, des expériences historiques. Parfois, quand je relis les textes historiques des expériences italiennes, j'ai ce sentiment encore que quelque part, c'est un lien aussi avec le rôle du parti, qu'aucun des deux ne mentionne vraiment dans vos articles, et qu'il y a quelqu'un qui sait. Hein? Et alors cette idée de cette hypothèse de l'égalité des intelligences me semble vraiment quelque chose de très approprié. Hein? Tu es allé récupérer cette référence, mais indispensable si on veut... si on veut vraiment penser que l'éducation populaire puisse avoir à nouveau un potentiel de transformation. C'est le fait que les personnes, les premiers concernés, pour reprendre l'expression, quelque part, avec un travail sur eux-mêmes, et ils sont les premiers qui savent quels risques ils sont prêts à prendre, quel type de transformations sont souhaitables. Et donc, je pense, je voudrais mettre en évidence cet élément que Jean a introduit, qui me semble vraiment clé dans les discussions que nous sommes en train d'avoir. Mmh.
Je veux bien réagir par rapport à ça. Alors effectivement, j'ai tout de suite insisté sur l'autre aspect, c'est-à-dire le fait qu'il faut penser un savoir qu'il faut produire et qui n'est pas prédonné. Et tu rappelles quand même qu'en même temps, on ne va pas supposer que ce sont les enquêteurs ou les intellectuels qui détiennent le savoir. J'ai moins insisté là-dessus, mais c'est parce que je pense que dans le milieu associatif, l'idéologie la plus partagée, c'est celle d'un certain anti-léninisme, c'est-à-dire surtout, on ne va pas aller imposer des choses, un savoir de l'extérieur aux gens. Ce n'est pas nous qui savons, c'est eux qui savent. J'ai l'impression, alors c'est peut-être une faute de jugement de ma part, mais j'ai l'impression que c'est ça qui, en tout cas, dans l'idéologie explicite, dominait. Donc j'ai envie de tirer un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on perd à dire ça et à partager ça comme une évidence. Mais voilà, moi je dirais en fait... Il faut cesser de supposer que quelqu'un sait d'avance. Mm-hmm. C'est-à-dire ni d'en haut, ni d'en bas. Mm-hmm. Et le savoir doit être produit. Et alors la référence à l'égalité des intelligences, c'est évidemment essentiel. Et surtout que Rancière, donc, qui utilise cette expression, dit que... oui, donc ça veut dire que tout le monde est capable de comprendre, de produire du savoir, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sait toujours déjà. Mm-hmm. L'intelligence n'existe que quand elle se met en pratique dans un exercice de production de savoir.
Absolument.
Ça n'est pas quelque chose qu'on possède tous comme ça, qui flotte au-dessus de nos têtes. Donc l'intelligence n'existe que quand on la met en œuvre et collectivement en plus. Et alors, sur le juste dernier point sur la question du parti, évidemment, je mentionne quand même dans une de mes thèses la question de l'organisation, qui effectivement est centrale. Et si on regarde chez Lénine, le parti joue vraiment un rôle d'intellectuel collectif, notamment, entre autres choses. Donc, bon, voilà, ce sont des grandes questions, mais l'idée de nommer comme ça un espace où il y a de la pensée qui est collectif, qui ne peut pas être approprié ou qui ne doit pas être approprié par une caste spécifique de gens, et qui doit permettre l'action, le parti, dans les théories de Lénine, joue ce rôle. Alors après, les questions de sa mise en place et de sa réalisation effective, c'est autre chose. Mais voilà, il y a une fonction cognitive, intellectuelle du parti. Voilà.
Bah oui, moi, c'est ça que j'aimais bien aussi dans ton analyse. Et je ne sais plus c'est quelle thèse, hein, mais à un moment, tu dis bien que voilà, c'est un premier pas que ce savoir collectif qui émerge permette au public, aux individus, de prendre conscience de leur oppression. Que donc, il y a quand même un niveau de... Enfin, l'objectif de la conscientisation est vraiment au cœur de cette méthode. Mais que ce n'est pas suffisant non plus, que même, à la limite, une conscientisation sans perspective politique de transformation, ben c'est déprimant, en fait. C'est déprimant, ouais. Ça rend les gens résignés, et ça peut être contre-productif, ça peut créer du ressentiment dans la population qui, si tu ne le prends pas en charge politiquement, peut alors après s'éclater dans des réponses plus réactionnaires, ou, enfin, en tout cas pas vers là où on voudrait que ça aille. Et c'est clair que la question de l'organisation, qui est pour moi rejoint autant la question du syndicalisme que du parti, finalement, est en stade un peu impensé, peut-être, du travail d'éducation populaire, d'éducation permanente, tel qu'on le fait régulièrement. C'est comme s'il y avait un peu un tabou sur la question du parti, alors qu'en fait, ça me semble clair que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour les années à venir.
Ouais. Et ce d'autant plus que peut-être que des mots comme auto-organisation sont dans toutes les bouches. Donc on en parle d'autant plus d'auto-organisation des publics qu'en fait on ne questionne pas vraiment l'organisation, qu'est-ce que ça veut dire, quelle forme ça devrait prendre. Et du coup, bon, ben, ce sont les organisations existantes qui viennent toujours remplir ce vide.
Ouais.
Voilà. Et question un peu sans doute naïve, mais est-ce que le fait que l'éducation permanente soit subsidiée ne fausse pas carrément la donne, en fait, comparé à une enquête ouvrière?
Je me posais la question en écoutant Mario, c'est-à-dire dans une des remarques, je disais, finalement, pour être social-démocrate aujourd'hui, il faut être radical et révolutionnaire. Donc c'est pas parce que les conditions, disons, de la négociation, de la concertation ne sont plus données. Pour avoir même le minimum, il faut viser très haut, et que pour survivre, les institutions doivent repenser radicalement leur signification. Mais alors effectivement, et Mario disait très heureux de travailler pour cette institution qui existe encore, et on se dit quand même, ouais, en Belgique, l'éducation permanente, c'est quand même un truc assez ouf, c'est financé, ça permet des choses, et en même temps, est-ce que ce serait possible, d'aller dans le sens de faire naître des consciences politiques tellement radicales? Est-ce que ça, ce serait possible dans le cadre subsidié et avec le contrôle des pouvoirs subsidiaires?
Moi, je pense que ça permet, comme tu dis, de ne pas... Enfin, on peut toujours ne pas avoir de but, enfin, pas prédéfinir les choses, etc. Mais je me demande si ça ne met pas certaines limites quand même au possible, quoi.
Moi, je pense que l'article de Cécile met en avant des évolutions qu'il y a eu. Hein. Par exemple, il fut un temps où c'était interdit de financer par les pouvoirs publics d'organisations et d'activités qui avaient un but politique. De l'autre côté, il y a aussi le glissement de former des travailleurs à former des classes populaires, des milieux populaires, où là aussi c'est un changement qui n'est pas que sémantique, hein, mais qui a un sens politique. Après, voilà, je veux dire que ça mériterait un débat en soi, la question de l'organisation, ce qu'elle permet, ce qu'elle encourage et ce qu'elle elle bloque. Je ne sais pas si je veux dire, comparé à d'autres cadres de financement, Celui de l'éducation permanente, il est encore très, très ouvert. Si on prend les cadres de financement, par exemple, de la coopération au développement des ONG, ils sont vraiment un contraignant qui pratiquement ne permet plus rien. Et d'ailleurs, c'est au moins un des facteurs de la dépolitisation, même des ONG qui s'étaient constituées autour d'un projet politique. D'un projet politique. Merci. C'est clair que c'est clair. Dans mon expérience, je pense que les cadres de financement posent des limites. Je ne suis pas sûr que ce soit le facteur principal de freinage. Je pense que des organisations comme les partis politiques, les syndicats, quand ils existent depuis 100 ans, 150 ans, quelque part, je ne sais pas si des structures qui sont aussi anciennes ont eu la capacité de s'adapter et de continuer à être des promoteurs de changement. Voilà, donc pour moi, ça, c'est une question, j'ai pas de réponse affichée, mais quelque part, c'est d'où vient le changement et quels sont les facteurs qui le facilitent. C'est une question qui est très ouverte, c'est une question éminemment d'éducation populaire.
Tu posais la question tu disais en tout cas la question du financement n'est peut-être pas le frein principal. Je pense que je pourrais être d'accord, et à mon avis, le frein principal, c'est la croyance des travailleurs de l'éducation permanente qu'il y a ce couperet du financement, et du coup une autocensure a priori vis-à-vis de ce qu'on a le droit de faire dans ce cadre-là. C'est-à-dire, tant que ces financements existent, que toutes ces institutions existent, il faut en profiter pour en faire le plus possible, et puis voir. Voilà, si à un moment, il y a effectivement le couperet du financement qui tombe dessus parce qu'on aurait fait quelque chose de trop radical, on verra, mais en tout cas il ne faut pas s'empêcher a priori de le faire, à mon avis, parce que ça c'est certain qu'on y perd si on s'interdit a priori d'essayer. Voilà, ce mythe en tout cas c'est-à-dire que ces limites n'existent que parce qu'on y croit, ou en tout cas on ne sait pas exactement où est-ce qu'elles existent matériellement, parce qu'on est toujours en deçà, parce qu'on se censure a priori.
On va clôturer ici, malheureusement, parce que c'est vraiment très passionnant. Je pense qu'on a encore, en plus de ça, des pistes pour plein de sujets à développer à d'autres moments. Merci beaucoup, Cécile.
Merci.
Merci à toi, Jean.
Merci pour l'invitation.
Et merci à toi, Mario.
Avec plaisir. Merci beaucoup.
Et n'hésitez pas à surfer sur le site de l'ARC. Vous y trouverez toutes les infos sur la revue, sur le podcast et sur nos invités.
Et abonnez-vous.
C'était Du Taf au Fumoir, le podcast de l'ARC, Action et Recherche Culturelle.
On peut essayer d'aller activer. L'idée, c'est que on a besoin de se cliver, de se déchirer intérieurement pour agir, pour transformer notre situation. Et pour ça, produire du savoir permet d'introduire ce décalage par rapport à soi-même.
À la présentation, Anne Leventhal, à la réalisation et au montage, Raphaël De Slover, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Tous les documents auxquels nous avons fait référence dans le cadre de cet échange se trouvent sur notre site internet arc-culture.be.